sur la ligne cinéma, parce que vous avez pu voir 487 000 euros pour 2023 et 300 000 euros pour l'année 2024. Alors, il ne s'agit pas des investissements faits sur le cinéma transitoire, il s'agit sur les 487 000 euros de 187 000 concernant les frais engagés pour la mise en place du cinéma transitoire et d'une enveloppe que nous mettons d'ores et déjà dans notre budget en cas de reprise du projet du cinéma en centre-ville, puisque nous savions avec la propriétaire actuelle qu'il y avait la demande à l'époque d'une participation de la ville. Donc, il n'est pas question que pour une raison au dernier moment d'incapacité de la ville à pouvoir apporter une contribution éventuelle, nous ne puissions pas les aider. Donc voilà, de façon prudentielle, nous mettons déjà dans le budget cette capacité-là. Voilà, juste pour. Alors, c'est juste pour un terme, hein, mais je préfère que plutôt que l'on parle de la réhabilitation de l'école Foch-Gambetta, que nous parlions de la réhabilitation de l'école Gambetta, puisqu'en fait, il s'agit de la toiture de l'école Gambetta. Mais comme on avait l'habitude de parler du groupe scolaire Foch-Gambetta, mais en fin de compte, c'est bien la réhabilitation de Gambetta. Voilà pour les quelques précisions que je souhaitais apporter. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Jutier.
Oui, simplement, Madame le maire, merci. Monsieur Gourlan, merci pour la présentation. Pour vous rappeler qu'il pourrait être très intéressant d'avoir aussi tout le fonctionnement présenté par fonction. Pour les investissements, on a les APCP, on a effectivement les grands projets qui nous permettent d'avoir un tableau assez complet du fléchage des investissements. Mais la présentation par nature du fonctionnement permet assez mal d'apprécier la manière dont le budget de fonctionnement est ventilé dans les services et la manière dont eh bien chaque fonction est dotée au sein de la ville de Rambouillet. Ça avait été fait une année, je crois. On l'avait demandé et redemandé. Une année, ça avait été fait. Et depuis, ça a disparu. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour vos conseillers et conseillères de votre groupe et pour l'ensemble de la population d'avoir ces informations.
Alors, pour votre information, nous sommes en train de travailler avec des tableaux dans les services et justement, c'est ce qui nous permettra d'avoir un suivi vraiment très net et plus facile à transmettre. Mais c'est en plein travail avec le service financier.
Alors, je compléterai les propos de la maire pour dire que nous votons notre budget par nature. Il y a deux façons de voter le budget, soit c'est par nature, soit c'est par fonction, de manière tout à fait formelle. C'est-à-dire que la délibération qui vous est proposée, c'est de les voter chapitre par chapitre. Alors, c'est un choix. On peut faire après, une fois qu'on a le principe qui est posé, effectivement, une analyse fonctionnelle, un type de lecture de la chose. Mais l'analyse fonctionnelle a ce biais suivant, c'est qu'elle ne permet beaucoup plus difficilement de faire du comparatif d'année en année. Et quand on est dans une situation particulière comme celle qu'on vient de vivre, il est important de voir que le tendanciel de chapitre par chapitre et de voir pourquoi nous sommes obligés de le faire. C'est dans ce sens-là, parce que je reprends votre exemple. Les charges d'énergie, si vous les faites par fonction, vous êtes obligé de le ventiler, les charges d'énergie, pour le sport, pour la culture, et ainsi de suite. Donc ça noie, si vous voulez, la lecture, l'analytique, en tout cas de la problématique inflationniste très spécifique à cette année. C'est pour ça qu'en termes de présentation, il était à notre sens pédagogique de le présenter comme ça. Maintenant, effectivement, ça ne nous interdit pas d'annexer au vote du budget une analyse fonctionnelle qui permet d'avoir une lecture par politique, puisque ça se fait. Je termine mon propos pour dire que nous sommes, nous, en termes de strates, taille de commune, à la jonction de nature et fonction. Dans des communes bien plus importantes, c'est souvent par fonction qu'on vote le budget. Des communes bien moins importantes, c'est toutes par nature, on est juste à l'intermédiaire. Donc les questions se posent. Voilà.
Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Monsieur Bernard, vous vouliez la parole?
Excusez-moi, mais je suis un peu troublé. On présente le budget. J'ai cru comprendre que c'était le point 3. On n'est pas passé sur le budget principal avec les comptes 2022. Donc, on est où là? C'est-à-dire qu'on est sur le point 3 ou on est sur... Vous présentez toutes les
En fait, on présente tout et puis après, on passe
les résultats 2022.
Les délibérations.
Ah oui, alors donc on a un certain nombre de choses qu'on va dire. Alors, on va faire un paquet. Bon, en tous les cas, il y a quelques interrogations par rapport à ce qui a été présenté. C'est la place de l'Europe. Je trouve un peu dommage qu'on ne la décale pas plus. Je pense que si on a des difficultés en plus financières, il serait peut-être plus important de travailler sur le Bel Air, de travailler sur la Louvière, qui sont des projets importants de quartier, et peut-être décaler la place de l'Europe, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément essentiel dans la vie des Rambolitains. Sur la charge des personnels, là, vous avez exprimé des calculs qui ont été faits donc par rapport à une augmentation telle qu'on l'a eue en 2022 à 3,5. Donc on ne sait pas exactement. En 2023, on considère peut-être qu'il va y avoir une augmentation aussi sur le personnel. Donc ce sont des éléments aléatoires qui nous permettent de simplement positionner des chiffres à partir d'éléments, mais qui ne sont pas forcément assurés. Et en plus, la masse salariale risque de bouger, puisque le personnel, on est obligé de faire un certain nombre de positionner un certain nombre de contraintes, et que donc la charge de personnel risque d'être aussi concernée par ça. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Pour ce qui est... alors, si on reparle du budget 2022, parce que...
C'était simplement pour signifier que 2022, on va s'abstenir pour l'approbation, parce qu'on n'était pas là, on avait quitté le Conseil ce jour-là. Voilà.
Exact.
Voilà, on n'était pas présent. Alors, sinon, sur les budgets, on essayait de trouver un certain nombre d'informations. Merci pour le cinéma, parce que très sincèrement, on se posait la question de ces montants très élevés, et on n'avait pas... bien que vous l'ayez dit, on n'avait pas véritablement intégré le fait qu'il y avait déjà la possibilité de mettre des finances pour le futur projet. Et Madame le maire, comme vous le savez, vos choix budgétaires ne sont pas nos choix. Cela nous amène d'habitude à voter contre. Mais pour ce budget 2023, nous allons nous abstenir. En effet, comme nous vous l'avions dit au Conseil municipal du mois de mars, nous considérons que le mauvais résultat des finances de la ville n'est pas entièrement de votre responsabilité, mais dû à des éléments internationaux graves, avec la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Si nous avions été à la gouvernance de la ville, nous aurions rencontré les mêmes difficultés de niveau international. Cette guerre toujours actuelle a fait surgir pour l'ensemble des pays des problèmes alimentaires, de ressources énergétiques, ce qui induit de l'inflation. Pour amenuiser les effets de l'inflation, des hausses de SMIC, de salaires, ont été mis en place. De plus, pour la réalisation de projets pour les habitants, nous passons par de l'emprunt bancaire. Cette crise influe bien évidemment sur les taux fixes, qui vont vers la hausse, mais aussi sur les taux variables, qui concernent quelques emprunts de la ville. Cette situation a asséché l'épargne que la ville avait. Alors nous comprenons qu'une pause d'investissement sur les projets qui ne sont pas encore démarrés soit faite pour 2023. Qu'il est bon d'être attentif aux événements afin d'envisager la reprise des projets, en espérant vivement que les crises internationales s'amenuisent. Par contre, nous ne retrouvons pas dans les budgets 2023 la part qui va être allouée au plan que vous avez mis en place dans le cadre de la prévention routière. Vous avez décrit en communication un certain nombre de choses, mais même là, je ne me suis pas retrouvé. Pourquoi cette interrogation ? Il y a un an exactement, nous avions sollicité avec l'ensemble de l'opposition la possibilité d'ajouter à l'ordre du jour du Conseil du 13 avril 2022 une question transmise officiellement pour installer un débat et un planning d'action suite à l'accident mortel du 26 novembre 2021 sur le passage piéton avenue Gosselin-Lenôtre. Une pétition a été jointe du groupe Génération Rambouillet sur les constats de circulation des piétons dans la ville, signée par 1000 personnes. N'ayant pas eu d'accord, nous avions quitté la salle du Conseil pour indiquer notre position. Comme vous aviez reçu notre demande, vous aviez, Madame le maire, préparé une communication sur ce sujet pour nous dire, entre autres, j'ouvre les guillemets, je reprends ce que vous avez écrit. La sécurité routière et la prévention routière demeurent une priorité du quotidien. acté dans le cadre de notre CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. En termes de réglementation, le stationnement indu sur les trottoirs au détriment des piétons est un vrai problème dont les causes sont parfaitement identifiées. La neutralisation des places de stationnement autour des passages piétons, malgré que cette disposition soit applicable au 31 décembre 2026, nous engagerons dès cette année, donc en 2022, des actions en ce sens, non sans avoir préalablement identifié les endroits à prioriser avec les autorités compétentes. Un audit large pour un plan de circulation et d'aménagement pour mettre les piétons en sécurité. Le plan de circulation et d'aménagement fait déjà l'objet d'un schéma local de déplacement. En conclusion de cette communication, vous dites « La problématique de la sécurité routière et de la prévention routière est un vaste sujet qui ne saurait se limiter à deux seules reprises de passages protégés et d'éclairage public. Il s'agit d'un domaine à entrée multiple, multidirectionnel, qui nécessite une approche globale. Voilà pourquoi nous souhaitons connaître les budgets alloués et les actions que vous menez sur la prévention routière, parce que le samedi 1er avril, un accident de personne a eu lieu au même endroit que celui du 26 novembre 2021. En 2022, à cet endroit, seul le passage piéton a été repeint. Nous demandions à débattre et à participer en avril 2022 à la mise en place d'un calendrier d'action sur 2022-2023 pour identifier et résoudre les points à fort risque. Vous avez écrit que vous vous engagiez dès 2022 à identifier les endroits priorisés avec les autorités compétentes. Cet endroit ne fait-il pas partie des lieux dangereux de la ville ? Allons-nous enfin nous retrouver, la majorité, l'opposition, les associations concernées par cette problématique, pour faire partie des autorités compétentes ? Vous avez exprimé, Madame le Maire, dans votre communication du 13 avril 2022, être désolé que l'opposition ne soit pas restée pour, à tout le moins, l'écouter, car la démocratie, c'est aussi écouter ce que les élus qui agissent au quotidien ont à dire sur les actions menées. Si nous ne vous avons pas écouté, nous vous avons lu. La démocratie n'est pas seulement d'écouter, mais de débattre sur les actions à mener. Après un an de perdu, un nouvel accident grave dans les mêmes circonstances nous interroge. Y a-t-il un plan d'action et des budgets alloués en 2023 pour l'amélioration de la sécurité des personnes dans la ville ? Je rajoute, puisque nous avons eu un conseil communautaire lundi soir et qu'il y a eu un budget qui a été alloué, un fonds d'aide au niveau des communes et que Rambouillet a un beau budget, peut-être que ce budget peut être utilisé aussi pour améliorer la sécurité des piétons dans la ville.
Alors, Monsieur Bernard, déjà vous répondre que je trouve tout à fait dommage de surfer sur des accidents dans cette assemblée, parce que vous le savez très bien, Monsieur Bernard, puisque nous nous sommes croisés samedi 1er avril, dès que j'ai eu connaissance de l'accident, avec Monsieur Cintra, nous sommes rendus sur place. Que cet accident n'a rien à voir avec l'accident d'il y a un peu plus d'un an, les circonstances étant tout à fait différentes en termes de luminosité, puisque nous étions en plein jour, et en termes de météo, puisqu'il ne pleuvait pas. N'allez pas faire croire que nous n'avons pas avancé depuis le budget de l'année dernière. S'il n'y a pas de ligne fléchée sur la sécurité routière, c'est bien parce que, comme vous le dites, c'est suffisamment important pour que ça fasse partie de tous les projets qui sont mis en place par les services techniques, tant sur les travaux de voirie quotidienne, les travaux quotidiens, mais aussi les réfections de voirie, comme nous vous le disions, il y aura des réfections de voirie durant l'année, et sur le travail fait sur les circulations douces. Donc, il n'y a pas de fléchage, puisque tout cela nous paraît important. Et je rappelle que la décision de renouveler tout l'éclairage public fait aussi partie de la sécurisation des piétons. Lorsque vous dites que nous n'avons pas agi, nous avons repris plus de 300 passages protégés dans l'année. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la rue Gosselin-Lenôtre, nous sommes sur une départementale. C'est la raison pour laquelle, suite au dernier accident, je saisis le département pour que nous ayons une réunion et que nous soyons avec les services de sécurité routière pour voir les potentiels aménagements que nous pourrions faire. Mais je le dis bien, nous sommes sur une rue départementale. Donc oui, nous travaillons, oui, nous faisons en sorte de sécuriser, mais comme vous le savez, nous ne reprenons pas toutes les voiries d'un seul tenant et nous ne pouvons pas le faire sur une seule année. Je rappelle également que depuis quelques années, des potelets ont été systématiquement mis au niveau des passages protégés. Et lorsque l'on voit par semaine le nombre de potelets que nous devons remplacer, je peux vous assurer que nous sécurisons les piétons, Monsieur Bernard, parce que lorsqu'on voit l'état des potelets, on peut se dire que s'il n'y avait pas eu le potelet, le piéton qui était présent risquer sa vie. Donc, en effet, nous travaillons. Mais, je le rappelle, les accidents, et d'ailleurs, il y a une question, donc il y aura la réponse dedans, tout à l'heure, les accidents, pour la plupart, sont dus à des comportements humains et que nous sécuriserons, bien sûr, au maximum, mais nous ne pourrons jamais être derrière chaque automobiliste, derrière chaque piéton, derrière chaque cycliste, derrière chaque utilisateur de trottinette. Donc, nous faisons un maximum, mais surtout, n'allez pas dire que nous n'avons rien fait et pas agi du tout. Nous avons agi durant cette mandature.
Alors, il ne faut pas se méprendre. On n'est pas là en train de savoir ce qui est fait, pas fait, tout ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clarté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a véritablement un problème. Et on n'arrive pas à déterminer où est mis l'argent. Vous avez exprimé dans votre communication qu'il y avait des montants au niveau des services techniques qui allaient être alloués au niveau des voiries, ainsi de suite. Moi, je ne regarde qu'un budget. Sur un budget, j'ai 500 000 euros. On sait aujourd'hui quel est le coût d'une voirie et ça augmente puisque c'est le double aujourd'hui. Le mètre linéaire est au double de ce qui était il y a un an. Donc, on n'a pas de visibilité. On sait que c'est un problème majeur. C'est un problème majeur pour les habitants de la ville de Rambouillet. On sait très bien que la problématique, ce n'est pas de soulever les voitures contre les piétons et les vélos et ainsi de suite. Ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est de véritablement voir s'il y a des projets. Et la seule chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait des passages piétons qui étaient repeints, même pas forcément modifiés de leur emplacement. Il y a des ronds-points près de la clinique vétérinaire. Je me suis rendu compte, pour passer sur le passage piéton, que je passais derrière un grand panneau de publicité, et donc la voiture qui arrivait ne me voyait pas derrière ce panneau. Donc, quelque part, on a un certain nombre de gestes à accomplir et on ne les voit pas. Et ce qui est très inquiétant, c'est que là, on parle d'un accident grave. La personne n'est pas décédée, heureusement, mais quelles sont les séquelles qu'il y aura derrière? Mais il y a d'autres accidents comme ça dans la ville. Et on cherche à savoir quels sont les investissements qui sont faits et pourquoi on ne participe pas à la réflexion, que les associations qui connaissent bien la ville parce qu'ils se déplacent en vélo, à pied, ainsi de suite, puissent participer à ça. C'est simplement faire le nécessaire, que le financement soit adapté aux vrais besoins que l'on en a. On ne recherche pas la responsabilité de quoi que ce soit. C'est où va l'argent, comment il est mis et est-ce qu'il y a la possibilité de participer à ces projets-là?
Alors, Monsieur Bernard, nous avons les services de police. Les services de police sont les référents en sécurité routière. Les reprises de tous les passages protégés que nous avons faites, l'ont été avec la priorisation que les services de sécurité routière nous ont suggéré. Et que, en effet, régulièrement, et là encore, pas plus tard que lundi, Monsieur Sintra s'est rendu de nouveau sur les lieux de l'accident pour voir avec les services de police éventuellement ce que nous pouvions envisager. Et ça n'est pas si simple que cela. Ça n'est pas si simple que ça. Parce que quand on fait on essaie d'avoir un équilibre, encore faut-il ne pas mettre en danger d'autres personnes. Donc c'est très compliqué. Mais nous sommes en permanence sur ces sujets-là avec les services de la police qui sont les spécialistes qui sont là pour nous aider et tous les travaux qui ont été engagés l'année dernière l'ont été avec les services de police. Et ils connaissent parfaitement la ville. Et en ce qui concerne la sécurisation, Nous avons une des missions qui va bientôt être remplie sur le carrefour Tivoli. Une reprise du carrefour Tivoli est actuellement à l'étude. S'il y a bien un carrefour où nous allons pouvoir sécuriser, parce que il faut avouer que c'est quand même un carrefour qui est important dans la ville de Rambouillet, et il y a un trafic piéton, je pense que entre celui-ci et celui de la gare, nous sommes sur les plus gros trafics piétons de la ville, puisque nous avons tous les lycéens, eh bien nous travaillons justement, et il va y avoir une somme importante mise sur ce carrefour pour justement sécuriser tous les modes de circulation douce, c'est-à-dire et les vélos et les piétons. Donc oui, il y a de l'action.
Oui, mais on en est conscient, ça fait partie de la commission des circulations douces, ça a été abordé, travaillé, et donc voilà. Mais je veux dire que ça, c'est de l'aménagement au niveau du territoire sur le futur, et qui, bien entendu, va permettre d'aborder toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce secteur-là. Mais on a aujourd'hui, à travers de la ville, un certain nombre d'endroits dangereux qui aujourd'hui demanderait à ce qu'il y ait une attention forte, alors que c'est peut-être la commission des circulations douces, j'en sais rien, qui doit aussi participer à ça, faire le nécessaire pour voir et quels sont les budgets qui sont alloués à ça. C'est quand même assez important. C'est se déplacer dans la ville, donc c'est quand même très important.
Eh bien, nous verrons, puisque de toute façon, tous les investissements sont fléchés, nous ferons... nous pourrons, lors d'une commission ou même moi, lors d'une communication dans un conseil municipal, vous faire l'état de tout ce qui est mis en place en termes de sécurité sur la voirie.
Très bien.
Monsieur Dos Santos.
Oui, bonjour Madame le maire, bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plutôt, vu l'heure. Alors comme tout a été évoqué effectivement dans la présentation, je vais intervenir également dès maintenant. Alors, comme indiqué le mois dernier, les élus Génération Rambouillet s'opposeront à la hausse de l'imposition sur le foncier bâti de 19%, donc ce qui portera le taux communal à 42,47%, soit une progression de 6,78 points et non 6,78% comme j'ai pu le dire par erreur le mois dernier. Donc cela placera Rambouillet au-dessus de la moyenne de la strate. Alors si on prend en considération l'augmentation par l'État des bases fiscales sur le foncier bâti de plus 7,1%, c'est une augmentation de plus 27,4% de la taxe foncière que les Rambouilletins vont subir dans les prochains mois. Pour faire face aux dépenses, vous avez donc fait le choix de ponctionner les propriétaires Rambouilletins à hauteur de 7,2 millions d'euros. Une charge qui sera assumée par les seuls propriétaires, qui représentent 53% des ménages à Rambouillet, dont de nombreux retraités. Alors, on ne peut pas nier que les collectivités subissent. Pardon.
Excusez-moi, monsieur Dos Santos,
dites-moi.
Mais oui, nous n'allons ponctionner que les propriétaires. De la faute à qui ? Je laisse.
Alors... Il me semble que la taxe d'habitation est compensée.
Alors, monsieur Dos Santos, je vais vous apporter précision.
C'est écrit dans le rapport d'orientation budgétaire.
Alors, c'est écrit que c'est
je
en
me
effet...
Je me fie à ce que je lis.
Alors, c'est compensé. À cela près que c'est compensé à la hauteur de la taxe foncière, de la taxe d'habitation pardon, que nous percevions en 2018. Vous imaginez bien qu'entre-temps, sous la pression très forte et encore plus forte actuellement de l'État que nous avons à construire, il y a bien eu des constructions qui n'ont jamais apporté de contribution à la vie de la ville.
Donc je poursuis, Madame le maire. Donc une charge qui sera assumée donc par les seuls propriétaires, qui représente donc 53% des ménages à Rambouillet, dont de nombreux retraités. Alors, on ne peut pas nier effectivement que les collectivités subissent l'augmentation du gaz, de l'électricité, et qu'elles doivent également assumer l'augmentation conjoncturelle de la masse salariale des fonctionnaires, donc le point d'indice, la revalorisation du SMIC. Cependant, les tensions sur les énergies fossiles sont connues de longue date, la crise récente n'ayant fait qu'amplifier ce phénomène. Dès lors, le rôle d'une commune et d'une intercommunalité est d'anticiper, de réaliser les efforts d'investissement nécessaires afin de maîtriser au mieux sa facture énergétique. En 2023, sur les 15,6 millions d'euros d'investissement prévus, seuls 31% sont orientés vers les économies d'énergie. Alors, je dois reconnaître que le projet Clay et Clairbois explique en grande partie ce taux faible. Mais on tombe à 22,7% d'investissement sur les économies d'énergie au niveau de la PCP dans la période donc 2022-2026, ce qui est insuffisant donc pour faire face aux défis que la ville doit relever. Pourtant, avec un minimum d'anticipation, des choix politiques forts et des arbitrages cohérents, des axes d'économie étaient possibles sans dégrader pour autant le fonctionnement communal. Alors comment peut agir concrètement notre commune pour faire face à ce défi? Alors un, en investissement donc fortement dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables, isolation de bâtiments publics, des écoles, types de chauffage. Rambouillet possède un parc important de bâtiments énergivores. Une rénovation globale de toutes nos écoles serait nécessaire. Des investissements qui donnent accès à des subventions et aux fonds verts actuellement. Deux, en optimisant les charges à caractère général et se limiter aux dépenses essentielles de la ville. Une vision à long terme aurait permis d'anticiper le remplacement de l'éclairage public et l'installation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Aucun panneau n'a été installé à ce jour sur nos bâtiments publics. Pardon. Trois, la mise en place d'un tableau de suivi mensuel des consommations énergétiques de nos structures, consultable par tous les rambouillétains. 4. En réduisant les charges de personnel, en favorisant les mobilités internes et en mutualisant certains services avec ceux de Rambouillet Territoire. Les économies de la municipalité de 317 000 euros ne compensent même pas les nouveaux recrutements de l'ordre de 536 000 euros. 6. En optimisant nos emprunts, notre délai de désendettement ne sera que de 6 ans en 2026, soit en dessous des recommandations qui sont inférieures ou égales à 10 ans. En conclusion, il est impératif de réduire les charges pour récupérer des capacités d'investissement. Il faut changer de braquet et orienter dans le futur 70% de nos investissements dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables et consacrer les 30% restants dans les investissements d'agrément. Aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse. Comme indiqué dans le budget, les charges à caractère général ont progressé de plus 68,8%, donc 5 millions d'euros, en 3 ans. Et les charges de personnel ont progressé de plus 16,2%, donc 3 millions d'euros en 3 ans également. Dans la même période 2020-2023, les achats de prestations de services ont plus que doublé, passant de 898 000 euros à 1 805 000 euros, sans que cela ne se traduise par une réduction des charges de personnel. Enfin, les subventions aux associations ont augmenté également de 5,7% entre 2022 et 2023. J'ai fait le calcul. J'ai pris toutes les subventions en 2022 et 2023 et c'est ce que j'ai obtenu. Vous avez donc fait le choix de faire peser le poids de ces augmentations intégralement donc sur les contribuables rambolitains sans réaliser de réelles économies. Donc au lieu de maîtriser ces charges, la municipalité a préféré augmenter les impôts de façon considérable. Madame le maire, comme votre prédécesseur en 2014, vous avez fait en 2020 la promesse de ne pas augmenter le taux d'imposition sur la mandature. Une promesse qui ne sera donc pas tenue une nouvelle fois.
Alors, Monsieur Dos Santos, en effet, une promesse qui n'est pas tenue. En 2020, je vous rappelle le contexte dans lequel nous étions, un contexte budgétaire tout à fait favorable pour la ville de Rambouillet. Merci à l'équipe précédente de nous avoir laissé des finances très saines. Je pense que personne ici, en 2020, ne pouvait imaginer ce que nous allions vivre en 2022 en termes d'augmentation de l'énergie, d'inflation. Alors, à moins que vous ayez une boule de cristal, Monsieur Dos Santos, moi je ne l'ai pas. Je ne prévois plus d'amélioration aujourd'hui, parce que depuis le début du mandat, je dois dire que nous en avons accumulé quand même un certain nombre. Vous dites que nous n'avons pas fait d'efforts. Je vous rappelle que dans la présentation qu'a fait M. Gourlan, en termes de fonctionnement, nous réduisons de 775 000 euros. Vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons aucun effort. Les services ont fait, et je vous demande le respect de nos agents et de nos collaborateurs qui ont travaillé sur le budget des semaines et des semaines, et c'est bien la raison pour laquelle le budget a été clos si tardivement, ils ont tous fait les efforts pour apporter au minimum 10% de réduction de leur fonctionnement. Donc oui, il y a des économies faites. Nous ne faisons pas porter uniquement sur la fiscalité les efforts pour pouvoir rétablir un budget qui soit correct, sain et qui nous permette éventuellement de faire face à de nouveau des aléas, puisque c'est exactement ce que vous a présenté M. Gourlan tout à l'heure, des finances qui peuvent nous permettre d'absorber, et heureusement que nous les avions, en 2022, parce que quand vous voyez l'état de l'épargne nette en 2021, je rappelle, aux alentours de 3,5 millions et 800, un peu plus de 800 000 euros en 2022, si nous n'avions pas eu cette épargne nette en 2021, nous n'aurions pas pu faire face correctement à la crise que nous subissons. D'autre part, sur les investissements, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Monsieur Dos Santos, et j'aimerais rétablir une vérité. Si vous comptabilisez, en effet, les travaux, alors je ne sais pas comment vous comptabilisez les travaux, vous dites, oui, en effet, ce qui dégrade le pourcentage, c'est le CLAE Clairbois. Mais ne vous y trompez pas, le CLAE Clairbois fait partie.
Voilà, non, mais sur cette année, c'est pour ça que sur cette
fait
année...
Fait partie.
Sur cette année, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sur les quatre prochaines années, je pense qu'il y a d'autres choix qui auraient pu être faits.
Vous avez vu, alors, les choix, en effet, ne seraient peut-être pas les mêmes. Tout de même, depuis le début du mandat, réhabilitation énergétique de l'école d'Arbouville, création du CLAE, Clairbois, réhabilitation de Gambetta. Nous sommes en train de travailler pour la réhabilitation énergétique de Saint-Hubert avec, ça vous fera plaisir, Monsieur Dos Santos, la pose de panneaux solaires. Je pense tout de même que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas fait sur les bâtiments, sans compter les crèches qui ont été récemment, les multi-accueils qui ont été récemment inaugurés, qui eux aussi sont tout de même des locaux qui permettent de grosses économies, plus, et je le rappelle, ça ne faisait pas partie du programme au départ, plus l'éclairage public qui, bien entendu, va générer des économies d'énergie. Donc je pense que vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons pas d'efforts sur les réhabilitations et sur les économies d'énergie. D'autre part, sur tous les travaux qui sont prévus dans le pôle patrimoine bâti, avec M. Cintra, nous avons demandé au service de travailler sur une priorité qui est les travaux, de mettre en place des travaux pour réaliser des économies d'énergie avec des changements de radiateurs, des mises en place de thermostats qui ne font pas partie, en effet, du tableau APCP, mais qui seront bien faits. Et contrairement à ce que vous dites, justement, j'ai demandé que soit abandonné pour le moment, et ça n'est pas si facile que ça pour mon collègue, et je sais de quoi je parle, qui est délégué au scolaire, nous abandonnons pour le moment les remises en état de peinture dans les classes pour pouvoir nous focaliser sur tout ce qui concerne les économies d'énergie. Et comme je dis, ça n'est pas si facile que ça, parce que tout le monde ne comprend pas qu'on ne refasse pas une jolie classe plutôt que de faire d'autres travaux. Donc voilà, je pense que là, qu'on ne soit pas d'accord, je l'entends, mais je souhaite quand même rétablir la vérité par rapport à tous les travaux qui sont entrepris.
Ce que vous venez de dire et le débat là qui s'est installé répond aussi à le problème sur la sécurité. C'est-à-dire que vous parlez de l'école Saint-Hubert, et l'école Saint-Hubert, elle est fléchée nulle part. C'est dans un budget pour les écoles et ainsi de suite. Et ça, c'est fort dommage. C'est-à-dire que quelque part,
pour vous politiquement, d'ailleurs, c'est pas bon, parce que vous n'exprimez pas véritablement les travaux qui sont faits. Et puis pour nous, c'est de savoir véritablement quels sont les gestes qui sont accomplis. Parce que, bien évidemment pour nous, la transition écologique, on avait signé le contrat quand on s'est présenté, on s'engageait et qu'il était véritablement inscrit dans nos projets de travailler sur cet aspect-là. Et ça devient primordial. Alors, si vous faites des choses sans que forcément on le sache, on peut se tromper, on peut taper à côté et on se fait recevoir. Et en réalité, peut-être qu'on pourrait participer aussi à mieux comprendre.
Eh bien, l'école Saint-Hubert, Monsieur Bernard, elle fait partie des APCP. Avant-dernière ligne. Donc, c'est affiché. Voilà. Non, non, mais c'est affiché. C'est affiché.
Oui, juste pour le Saint-Hubert, toute la partie photovoltaïque ne fait pas partie du budget communal, puisque c'est pris en charge à 100% par le syndicat d'énergie des Yvelines.
Alors,
ça ne coûte rien à la commune.
Alors, sur les fonds verts, oui. Sur les fonds verts, je reviendrai vers vous pour vous donner le résultat, parce que nous avons fait des demandes. Je peux vous dire que le résultat sera extrêmement décevant. Mais nous le faisons, et je peux vous dire que les services s'attellent à chaque fois à monter les dossiers de demande de subvention. La seule chose que je regrette, c'est que ce sont souvent des effets d'annonce peu suivis par des réalités en monnaie sonnante et trébuchante pour les collectivités qui déposent les dossiers. Et c'est bien dommage parce que lorsque l'on prouve à quel point nous avons rempli tous les critères, c'est quelque peu décevant de voir qu'il n'y a pas le résultat au bout du compte. Donc c'est vrai qu'on peut annoncer des subventions, de là à les accorder, il y a un monde. Voilà, c'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Jutier?
Oui, Madame le maire, on a parlé beaucoup d'énergie et d'éclairage public. Vous aviez évoqué des expérimentations sur l'extinction de l'éclairage public. J'ai encore eu l'occasion de traverser Rambouillet d'est en ouest en début de semaine à 2h15 du matin. À 2h15 du matin, oui, voilà. Tout était complètement éclairé. C'était assez joli, c'était beau, hein, on se voit seul. Mais quand on voit tous les lampadaires qui crachent, il n'y avait évidemment pas un humain, pas un chat, pas âme qui vive. Depuis le monument américain jusqu'à à la sortie direction Clairefontaine, le collège, enfin, tout était... Voilà. Donc, moi, je me dis, on fait face à une crise énergétique importante. On fait face à une situation qui va durer dans le temps, c'est certain, qui peut peut-être même s'aggraver. Et donc, face à une situation de crise, prenons des mesures qui n'auraient pas été envisagées pour X raisons à un autre moment, et n'ayons pas peur de le faire. Il n'y a aucun souci. Beaucoup de villages le font autour de nous, beaucoup de grandes villes un peu plus loin le font également. Ça ne pose aucun souci, à cette condition d'éclairer toujours les passages piétons.
Alors, Monsieur Jutier, je rectifie votre façon de voir les choses parce que je peux vous dire qu'il y a des extinctions qui sont faites sur les grands parkings et sur les zones d'activité. Pourquoi nous n'avons pas pu éteindre sur des quartiers ou partiellement? Parce que, justement, nous sommes sur un éclairage public qui est ancien et qui dépend d'un nombre très important d'armoires. Voilà. Et que lorsqu'on a fait la demande d'étude à Enedis, eh bien, cela nous coûtait plus cher d'éteindre et d'avoir quelque chose de cohérent que de laisser l'éclairage public allumé. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ainsi. Et que d'autre part, il n'y a pas de régularité actuellement parce que, encore une fois, nous sommes sur... De l'éclairage public qui est installé de façon disparate dans les modèles et que nous devons absolument garder les zones avec la vidéoprotection allumées. Et qu'en fait, lorsque nous débranchions pour pouvoir obtenir une extinction, eh bien, comme il n'y a pas de cohérence actuellement, il y avait des extinctions sur les zones de vidéoprotection. Voilà. Donc, c'est les raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu faire ces extinctions.
Ce qui signifie que techniquement, il faut attendre le remplacement progressif de l'ensemble des lampadaires pour le faire.
Oui, tout à fait. Okay. Donc, il y a deux phases. Hein, le remplacement de l'éclairage public va se faire en deux phases. Une première phase cette année et une deuxième phase l'année prochaine.
Ok, c'est un petit peu surprenant parce que de toute façon, que l'extinction se fasse à 23h30, par exemple, si on décide de l'anticiper, ou comme aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure ça s'éteint, 6h du matin, par exemple, ça fait une extinction de toute manière.
Pardon, oui, mais elle est globale.
D'accord, et vous voulez préserver pas sectionnée. Les zones de surveillance par vidéo.
Oui.
C'est ça le cœur du problème, c'est de pouvoir préserver certains
exactement.
Spots.
Okay. Exactement. Et de pouvoir garder les zones qui doivent absolument rester allumées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Alors, comme je n'en vois pas, je vais m'en aller et laisser la présidence à M. Gourlan, puisque je ne peux être présente au moment du vote du compte administratif.